Il est 8h. Jusqu'à 4 heures d'attente au débarquement aujourd'hui et avec des passagers plus nombreux, la crainte d'une vaste pagaille dans les aéroports cet été. Le patron d'Aéroports de Paris en appelle au gouvernement. Dans ce journal, l'ouverture du procès Big Malion sur le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2012 et le conflit du Proche-Orient qui met à mal la coexistence entre citoyens juifs et arabes à Jérusalem. 8h15, l'interview de Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Un rassemblement hier des forces de l'ordre et une justice remise en cause, ciblée alors qu'en pense l'ancienne garde des Sceaux Rachida Dati? Rendez-vous à 8h15 pour le savoir.
C'est juste après ce journal. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 8h, c'est le journal de Marion Calais. Bonjour Marion.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Ça fait aussi partie du mouvement lancé hier. Commencer à renouer avec une vie normale et ensuite se projeter, se tourner vers les vacances d'été avec l'envie d'élargir son horizon. Et si l'Union européenne continue de préparer le terrain avec de nouvelles discussions aujourd'hui sur le certificat sanitaire, pas sûr pour autant que les voyages soient un long fleuve tranquille cet été.
Bonjour Clément Le Saffre.
Bonjour.
Le patron d'Aéroports de Paris a même prédit cette semaine une apocalypse de temps d'attente. En fait Clément, ce qui inquiète Augustin de Romanet, ce sont les contrôles, notamment à l'embarquement.
Oui, et pour une raison très simple, le trafic aérien va doubler cet été par rapport à aujourd'hui. Or, actuellement, c'est déjà compliqué, et ce, dès le départ, avec le Covid et les contrôles sanitaires, le temps d'embarquement d'un avion a été allongé de 30% en moyenne, donc mieux vaut prévoir une petite marge. Pour fluidifier tout ça, Air France mise sur Tous Anti-Covid. L'application contient désormais les certificats de test et de vaccination, une nouvelle fonctionnalité testée depuis un mois sur les vols vers la Corse. Les premiers retours sont positifs, 70% des voyageurs utilisent l'appli plutôt qu'un certificat papier. Selon Air France, grâce à ce pass sanitaire, c'est 1 à 2 minutes de gagné par passager.
Et l'inquiétude, elle est la même pour les arrivées en France, Clément ?
Eh bien, c'est pire. Selon ADP, sur certains vols, surtout ceux en provenance de pays de la liste rouge Covid, le débarquement peut prendre entre 1h30 et 4 heures, simplement parce qu'en plus des contrôles de la police aux frontières, il y a des contrôles sanitaires, deux filtres qui allongent les délais. Les passagers qui arrivent en France doivent avoir effectué un test PCR ou antigénique avant d'embarquer. Il faut donc vérifier chaque certificat en plus des documents d'identité. Et ça, c'est dans le meilleur des cas, puisqu'il y a des pays pour lesquels les tests ne sont pas jugés fiables par les autorités, notamment la zone Afrique. Ça veut dire que même si vous avez fait un test sur place avant le vol, vous risquez d'être retesté à l'arrivée en France. Un beau bazar en perspective pour l'été, donc. La question est aussi économique que politique. ADP demande des renforts pour la police aux frontières et renvoie la balle au gouvernement. Des discussions sont en cours avec le ministère de l'Intérieur. Les contrôles seront sans doute allégés, nous dit-on. La question est de savoir comment, sachant que la propagation du Covid est encore très active dans certains pays.
Des incertitudes encore, donc, mais l'été qui se prépare d'ores et déjà dans les aéroports, Clément Le Saffre, et dans les ports également, préparation pour la reprise des croisières. À Marseille, Carole Ferry, premier départ le 4 juillet.
Alors ce que je peux vous dire, c'est que MSC a choisi son navire avec le plus de ponts extérieurs pour redémarrer, le MSC Seaside. Ce sera le Costa Esmeralda pour son concurrent Costa Croisière. Évidemment, le protocole est très strict. Les bateaux sont remplis à 70% maximum. Vous venez désormais au terminal sur rendez-vous pour éviter les attroupements. Là, vous êtes testé avant de monter à bord. Pour les repas, fini les grands buffets à volonté. Le service se fait à table. Lors des escales, seules les excursions organisées sont autorisées, comme l'explique le directeur des affaires institutionnelles de MSC Croisières, Herminio Esquena.
À l'heure actuelle, nous proposons ce que l'on appelle des excursions bulles. C'est une excursion qui se fait déjà par un transport sanitarisé. Si c'est un bus, par exemple, le remplissage sera fait pour que la distance soit respectée, ce qui vous permet de préserver à la fois la sécurité des passagers et donc du bateau quand ils vont revenir à bord et en même temps des populations qui nous accueillent.
Mais la reprise sera graduelle. Costa prévoit de faire voyager 4 paquebots sur 15 cet été. MSC, une dizaine sur sa flotte de 18 bateaux.
Eux sont en mesure de faire un premier bilan. Les commerçants qui ont rouvert hier, fréquentation et achats ont été au rendez-vous. Écoutez le reportage à Nantes de Charles Guyard pour Europe 1.
Je vais fermer le magasin, il est bientôt 19h.
Après une journée bien chargée, Paul peine à faire sortir les derniers clients de sa boutique de friperie dont la vitrine est d'ailleurs ornée d'un grand message à leur attention.
Mon ami, vous nous avez manqué, cette fois-ci c'est la bonne.
Une réouverture rêvée pour l'ensemble des commerçants, bien aidés ici par une météo d'abord incertaine et finalement propice à la promenade, mais aussi à la dépense. Comme l'a constaté Nathalie, elle est gérante d'un magasin de décoration.
C'est agréable déjà de voir des gens passer. Il y a une envie de se faire plaisir, on regarde un petit peu moins le prix. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le panier moyen était plus important qu'avant le confinement.
Derrière son comptoir, noyé entre les étals de casquettes, de t-shirts et de bijoux, Michel fait les comptes. Verdict.
On a fait une bonne journée. C'est-à-dire, moralement, c'est bien parce qu'on est en activité et j'ai bien travaillé parce que les gens consommaient. J'ai fait 80 ventes, ce qui représente un samedi. Ça fait plaisir.
Même satisfaction pour Dorothée, dont le commerce de vêtements est situé juste en face d'une terrasse bondée.
Ah bah oui, on revit. Les sourires, ils sont encore masqués, mais on le voit dans les yeux des gens. On a vraiment là espoir en des mois meilleurs. Vraiment une très bonne première journée. Je suis très heureuse.
Un bonheur et un optimisme unanimement partagés dans ces rues de nouveau animées.
C'était léger comme ambiance. Ça a fait beaucoup de bien.
Nantes, Charles Guyard, Europe 1.
Des rues que les fêtards hier soir ont eu du mal à quitter au moment du couvre-feu. Voilà, ici, place de la Contrescarpe à Paris. Il est 21h, il va falloir rentrer chez vous. À Rennes, là, les forces de l'ordre ont dû intervenir et faire usage de gaz lacrymogène après qu'un feu de joie a été allumé aux abords de la rue de la Soif.
8h06 sur Europe 1. Nicolas Sarkozy de retour devant la justice aujourd'hui. Ouverture cet après-midi du procès Big Malion.
Quelques mois après sa condamnation pour corruption dont il a fait appel dans le procès des écoutes, l'ancien chef de l'État figure parmi les 14 prévenus dans ce dossier de surfacturation présumée à l'UMP de la campagne présidentielle de 2012.
Bonjour Chloé Triomphe.
Bonjour.
Vous allez suivre ce procès pour Europe 1, Chloé. En mars dernier, pour cause de Covid, il avait été reporté. Mais aujourd'hui, comme alors, Nicolas Sarkozy affiche une détermination intacte.
Et oui, c'est ce que distille son entourage pour ce procès qui va s'étirer sur 5 semaines et dans lequel l'ancien chef de l'État est poursuivi pour financement illégal de sa campagne de 2012. Alors, l'accusation lui reproche d'avoir largement laissé déraper les dépenses au fil des 44 meetings et d'avoir disposé au final d'un montant bien supérieur au plafond autorisé pour sa campagne, un dépassement de l'ordre de 20 millions d'euros. Et si c'est bien le candidat qui a signé ses comptes de campagne falsifiés, l'enquête n'a toutefois pas établi qu'il ait orchestré, participé ou même été mis au courant des pratiques illégales de facturation qui avaient été mises en place entre la société Big Malion et son équipe de campagne. On rappelle que le tour de passe-passe consistait à faire payer par l'UMP ce qui aurait dû être imputable à la campagne. En tout cas, Nicolas Sarkozy, contrairement aux autres prévenus, n'est pas poursuivi pour escroquerie ou complicité et signe sans doute qu'il entend bien faire comprendre qu'il n'est pas au centre de ce dossier. Il a assuré qu'il se tiendrait à la disposition du tribunal, mais il pourrait bien ne pas se présenter tout à l'heure, puisque le traditionnel appel des prévenus en début d'audience où chacun se présente a déjà été fait en mars, juste avant l'ajournement du procès, vous l'avez dit, pour cause de Covid.
Voilà, ce procès qui commencera donc à 13h30 tout à l'heure. Précision de Chloé Triomphe en direct pour Europe 1.
Votre journal se poursuit dans un instant. Il se pose en soldat déterminé à vaincre Jair Bolsonaro. Interview exclusive de Lula. C'est dans Paris Match. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h09 sur Europe 1, la suite du journal, Marion Calais.
Ses condamnations désormais annulées, il pourrait être l'homme de 2022. Et dans les colonnes de Paris Match aujourd'hui, Lula se dit prêt à se lancer dans la course à la prochaine présidentielle au Brésil. L'ancien chef d'État, qu'un sondage donnait largement vainqueur la semaine dernière, il se confie en exclusivité à notre consoeur Marion Kérouille-Brunel.
Je veux prendre le rôle d'un soldat qui ne se reposera pas une minute tant que Bolsonaro ne sera pas vaincu. Je pense que le fait d'être candidat ou non dépend des circonstances. Je dis toujours que je n'ai pas nécessairement besoin d'être candidat. J'ai déjà été candidat. Si au moment où je dois me décider, le contexte fait que je suis le candidat qui peut gagner les élections, je n'hésiterai pas.
Lula président 2022, possible ?
C'est possible. C'est possible, il suffit juste de demander au peuple brésilien.
Cette interview de Lula à retrouver dès aujourd'hui dans les colonnes de Paris Match.
Après 10 jours de violence au Proche-Orient et 239 morts, Washington hausse le ton mais refuse une nouvelle fois tout projet de résolution de l'ONU.
Alors que sur le terrain, tirs de roquettes et raids aériens se poursuivent, un conflit né du projet d'expulsion de familles palestiniennes au profit de colons israéliens à Jérusalem. Depuis, juifs et arabes israéliens s'affichent plus que jamais divisés. Reportage à Jérusalem de la correspondante d'Europe 1, Gwendoline de Bonneau.
Depuis le début des violences, les livreurs de Jérusalem appréhendent chaque commande. Moham est un Palestinien de la ville. Il est anxieux lorsqu'il découvre le quartier où il doit livrer.
Ah, la situation est mauvaise là-bas. Je dois parfois livrer dans des zones ultra-orthodoxes où il y a des extrémistes. J'ai peur de me retrouver encerclé, seul. Je sais qu'ils me frapperaient.
Dans une allée commerçante habituellement bondée, les terrasses sont vides. Le lieu est proche de la ligne verte, frontière invisible qui sépare l'est de Jérusalem, où vivent les Palestiniens, de l'ouest, où vivent majoritairement les citoyens juifs, à l'image de Gabriel.
On sent surtout des tensions entre les communautés, entre la communauté juive et la communauté arabe à Jérusalem. C'est en général ici une des rares zones mixtes de la ville, et clairement elle est un peu moins mixte aujourd'hui, c'est triste.
Dans un hôpital de l'est de la ville, Tamer, un Palestinien de Jérusalem, grimace de douleur. Une balle a traversé son avant-bras lorsqu'un juif extrémiste a ouvert le feu dans son quartier dimanche dernier.
Ils sont venus armés avec des M16. L'un d'eux a attaqué les jeunes. Il a tiré directement sur les maisons, sur les enfants. Dans notre quartier, c'est la première fois qu'une chose pareille arrive.
Des membres de sa famille présents à son chevet travaillent à Jérusalem-Ouest. Pour l'instant, dit l'un d'eux, mes enfants ont interdiction d'y aller.
Un reportage signé Gwendoline de Bono à Jérusalem pour Europe 1.
Le foot et la saison pas totalement perdue du PSG, vainqueur hier soir de la Coupe de France, 2-0 contre Monaco.
Le foot qui se joue aussi ce matin en musique.
Crie mon nom en bleu, écris mon nom en bleu, crie mon nom en bleu. Note-le, écris mon nom en bleu. 1. Défendre les lignes et les frères d'armes. Et si ça peut le faire, ça peut faire date. Ça vient des campagnes et des quartiers, personne va s'écarter, le camp sera gardé. Chaque blase est lourd de sens.
Écris mon nom en bleu, nouvelle chanson officielle de l'équipe de France de foot, alors que l'Euro approche dans moins d'un mois. Maintenant, et chanson signée Youssoupha.
Le rappeur Youssoupha. Merci beaucoup Marion Calais. C'était le journal de 8h sur Europe 1, il est 8h12. Et dans quelques secondes, on retrouve Sonia Mabrouk et son invité Rachida Dati ce matin. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h15 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invitée ce matin, la maire Les Républicains du 7e arrondissement de Paris, Rachida Dati.
Bienvenue à vous, bonjour Rachida Dati.
Bonjour.
Lors du rassemblement des forces de l'ordre hier, un syndicat de police a lancé le problème de la police, c'est la justice. Que répond ce matin l'ancienne garde des Sceaux ?
Cette manifestation était la traduction d'un ras-le-bol des policiers. Ça traduit aussi un manque de soutien des institutions vis-à-vis des forces de sécurité de notre pays. Ça va même au-delà de la police. Et ce qu'il disait hier, c'est qu'en fait, ces policiers, ils ont le sentiment de devoir plus se justifier que les délinquants qui s'attaquent à eux. Aujourd'hui, on en est là. Et ce qui manque aujourd'hui, c'est une politique pénale.
On va en parler.
Mais il n'y a pas de politique pénale aujourd'hui en France.
L'ancienne garde des Sceaux a été quand même heurtée, peut-être même choquée par certains mots quand même. Le problème de la police et la justice. Est-ce que c'était un moment d'hommage, de rassemblement ou une mise en cause de la justice selon vous ?
Ce n'est pas une mise en cause des magistrats en soi. C'est une mise en cause des institutions et du gouvernement en premier lieu. Parce que vous savez, j'ai été garde des Sceaux, j'ai été aussi magistrat. Quand vous êtes magistrat, quand vous êtes au parquet, vous êtes soumis à une politique pénale qui résulte des instructions du gouvernement. Ce qui manque aujourd'hui, c'est une politique pénale claire et ferme. Aujourd'hui, nous n'avons pas de politique pénale claire et ferme. Vous avez reçu à plusieurs reprises, que ce soit le ministre de l'Intérieur ou le ministre de la Justice. Moi, je ne connais pas leur politique pénale. Aujourd'hui, il faudrait donner des instructions claires à tous les procureurs de France, de dire, quand il y a des interpellations, qu'il y ait des déferments systématiques. Déferment systématique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire présentation des individus devant la justice, et au moment de l'audience, ou même avant, qu'il y ait des réquisitions de prison ferme.
Mais attendez, des réquisitions de prison... Pourquoi les magistrats ne le font pas ? Est-ce que c'est une faute de moyens ou d'idéologie de certains magistrats ?
Non, c'est que parfois, quand vous avez besoin d'avoir une cohérence de la politique pénale en France, il faut aujourd'hui, vous savez, partout en France, vous le savez bien, Madame Mabrouk, en France, il y a des guérillas urbaines tous les jours, des violences et des attaques des forces de sécurité tous les jours. Et ça va au-delà des forces de sécurité. Les pompiers, les médecins, tout ce qui représente aujourd'hui, tous ceux qui sont en charge d'une mission de service public. Et donc, il est normal d'avoir une politique pénale cohérente sur tout le territoire. Ça veut dire quoi ? Comme je l'avais fait en son temps, de dire au procureur d'abord déferment systématique, présentation devant la justice, première chose. Réquisition de prison ferme, ça c'est la deuxième chose. Mandat de dépôt à l'audience. Mandat de dépôt à l'audience. Rétablissement des peines planchers,
On va en parler, Madame Dati. On va parler des peines planchers.
Mais le gouvernement perd du temps là-dessus.
On va en parler, mais est-ce que vous êtes favorable ? Et clairement, on va faire la distinction à des peines automatiques face à certains délits commis contre les forces de l'ordre, comme le demande d'ailleurs Xavier Bertrand. Est-ce que vous êtes pour cette automaticité des peines ?
L'automaticité des peines n'est pas permise dans notre droit et par notre Constitution. Pourquoi ? Parce que nous avons un principe, et moi j'y tiens, je vous le dis, et puis je trouve que c'est ce qui est aussi une traduction de l'état de droit, qui est une individualisation des peines. Il faut effectivement que chaque individu, en fonction de sa personnalité, en fonction de son implication dans les faits, puisse avoir une peine en conséquence. Et donc, la peine automatique n'est pas possible dans notre droit.
C'est important ce que vous dites. Hein. Ce n'est pas toute la droite qui est d'accord avec vous sur ce point.
Mais nous pouvons faire deux choses. C'est d'abord de rétablir les peines planchers. J'entends ceux qui n'y connaissent même pas, qui n'y connaissent rien, j'ai entendu. Oui, ça n'a pas été efficace, c'est pour ça que ça a été abrogé.
C'est vrai, les magistrats ne l'ont pas appliqué.
Non, c'est faux. C'est
à
faux.
70%, voilà, à 70% voilà. Les magistrats ne l'ont pas appliqué.
Je vais vous dire pourquoi.
Vous ne le reconnaissez pas.
Ben parce que ce n'est pas la réalité. Sauf si vous me sortez des chiffres, vous me donnez. Je vais vous donner des choses très claires. C'est que les peines planchers, elles ont été supprimées par François Hollande et Mme Taubira par idéologie.
Voilà. Non, mais ça, d'accord, c'est de l'idéologie. Mais je ne vous dis pas la ça. Peine elles planchée, n'ont pas été appliquées par
si,
les magistrats.
Mais attendez, je vais vous dire. Pourquoi ? Les peines planchers, je les avais mises en œuvre et je les avais instaurées pour les récidivistes. Et donc, il y a des tribunaux, notamment dans le Sud, et ça, vous pourrez retrouver les chiffres, où elles ont été appliquées pour les récidivistes à 100%. Aujourd'hui, rétablir les peines planchers, et notamment pour les attaques de policiers, c'est élargir leur application.
Le garde des Sceaux dit que c'est un fiasco et il donne des chiffres. Que pensez-vous de ces chiffres ? De 2008 à 2013, période pendant laquelle les peines planchers ont été en vigueur, il dit, Éric Dupond-Moretti, le quantum moyen d'emprisonnement était compris entre 7,3 mois et 7,8 mois, et dès leur abrogation à ces peines planchers, la moyenne d'emprisonnement était entre 8 et 9,5 mois. Donc, les peines planchers.
Les peines planchers applicables uniquement aux récidivistes. C'est comme si vous me disiez que une peine de prison était applicable pour un vol. Elle était dédiée, elle était circonscrite à des faits, une qualification pénale. La qualification, c'est il fallait être en récidive. Et dans le cadre de la récidive, elles ont été appliquées et bien appliquées. Et je peux vous dire qu'il y a des tribunaux, je vous le répète, dans le Sud notamment, où c'était appliqué à 100% pour les récidivistes. Là, il faut élargir la base. Parce que je veux vous dire, Madame Mabrouk, la peine, une peine ferme, c'est répressif, mais ceci très dissuasif. Il faut également les rétablir pour les mineurs. Moi, je me souviens, les mineurs que je rencontrais, des mineurs délinquants, me disaient, mais madame, on ne va pas avoir aussi les peines planchées. Je peux vous dire que ça a été très dissuasif.
Vous êtes pour une responsabilité pénale, je crois, à 13 ans, dès 13 ans, et j'ai entendu Xavier Bertrand qui est pour une majorité pénale. 15 ans, mais jusqu'où faut-il aller ?
Pas du tout. C'est deux choses différentes.
C'est deux choses différentes, mais jusqu'où faut-il aller justement pour la justice des mineurs ?
On va serrer les choses. Aujourd'hui, les forces de sécurité, et bien au-delà, je vous le disais, parce que ça va même jusqu'aux élus, sont fortement attaquées. Fortement attaquées. Nous avons des guérillas urbaines tous les jours, des attaques de forces de l'ordre tous les jours. Et vous le savez bien, j'ai entendu M. Darmanin en disant « Ah, mais il y a plus de violence parce qu'on dérange les trafics de stupes. » C'est faux.
Pourquoi
il n'y a
c'est
pas
faux
que... Parce que...
Même les policiers, les syndicats de police reconnaissent qu'en mettant un coup de pied dans la fourmilière, il y a cette bouffée de violence.
Et je suis effectivement d'accord avec eux. Il y a une partie où, effectivement, où on dérange un peu le trafic de stupes. Madame Mabrouk, ce n'est pas vous qui allez me dire le contraire.
Pourquoi,
il y a toute une partie de violents qui sont liés à des individus qui refusent que la République puisse exister sur les territoires
plus loin.
Où ils sont.
Quels
avez des individus qui ne souhaitent pas que la police arrive parce qu'ils ne veulent plus de la République sur leur territoire. Et ces individus prennent en otage les habitants et ces habitants qui au départ se résignent finissent par se faire justice eux-mêmes. Vous l'avez vu, y compris à Paris.
Bon, mais vous êtes dans le constat. Qu'est-ce que vous proposez pour cela ? Parce que là, vous parlez d'une haine anti-France.
Mais ils ne veulent plus de la République. Ils veulent être tranquilles sur leur territoire pour faire ce qu'ils veulent. Et ben moi, je ne me résous pas à cette dislocation. Et c'est important aujourd'hui de le dire. Moi, je suis pour la fermeté. Politique pénale ferme, peine planchée, construction de places de prison. Mais aussi s'attaquer aux causes de cette dislocation. Et les causes de cette dislocation, c'est revoir la politique de peuplement, la politique
donc
de logement.
Donc vous me dites répression, vous me dites fermeté, pas éducation, pas prévention.
Je termine, je suis en train de vous dire, il faut revoir les causes de cette dislocation, revoir la politique de peuplement, notamment remettre face à leurs responsabilités les bailleurs sociaux, l'ANRU, dont tout le monde s'est gargarisé. On y a mis des milliards, pour quel résultat ? Ensuite, sur l'école, il faut revoir les méthodes d'apprentissage. Il faut revoir le statut de certains établissements scolaires. Pourquoi ne pas donner une certaine autonomie ? Il y a eu des expérimentations qui ont marché. Il faut rétablir également les internats d'excellence qui ont été supprimés par la gauche. Il faut mettre l'apprentissage dès 14 ans. Mais aussi, il faut revoir la politique migratoire. Et moi, je pense qu'il y a deux aspects.
Vous faites le lien entre immigration... Non, mais je vous pose la question directement.
La politique de peuplement,
entre immigration et insécurité, parce que nous parlions de cela.
Il faut dire la vérité. La politique de peuplement, les logements sociaux, pour l'essentiel, elle est liée à la politique d'immigration. À un moment donné, il faut arrêter de se voiler la face. À Paris, au centre de Paris, ça existe. Et donc, la politique migratoire, revoir les critères de regroupement familial. Et les critères de regroupement familial, faudrait les conditionner à l'habitat et l'emploi. Première chose. Et tous les déboutés du droit d'asile et tous ceux qui n'ont plus rien à faire sur notre territoire, il faut pouvoir augmenter la durée de rétention jusqu'à l'expulsion.
Si c'était comme si facile, Madame Dati, vous savez que ce sont...
Mais
c'est compliqué comme procédure, mais...
Non, pas très compliqué. C'est du courage politique. Lorsque nous étions aux affaires, c'est vrai que moi, j'ai conduit des politiques très fermes et très claires. J'ai pas pu aller jusqu'au bout. Sur les mineurs, pardon, en disant responsabilité pénale et majorité pénale. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les mineurs, les décisions qui sont prises à l'encontre des mineurs, c'est en fonction d'un discernement.
Bien.
Et
attendez.
Pas en fonction d'une responsabilité.
Alors, je voudrais parler d'un autre sujet, mais c'est important. Non, mais justice des mineurs, on a entendu vos propositions, Madame
Dati. Non, mais la justice des mineurs, je vais vous dire, ce qu'il faudrait, c'est un code de la justice
des
mineurs.
Oui, mais il y a une justice des mineurs. Si le gouvernement l'a fait, à la rentrée, il va y avoir des peines rapidement appliquées.
Mais c'est
une
ça
application
pour vous
plus
pour... Ça, c'est pour vous.
Non, je
ça,
vous dis les faits. Je vous dis les faits simplement.
Mais ça, vous pensez que ça va résoudre le problème?
Je vous dis
il y a deux aspects sur les mineurs. Il faut avoir un code de la justice des mineurs qui n'existe pas. C'est volet pénal et volet assistance éducative et protection des mineurs.
Autre sujet, Madame Dati, malgré une météo capricieuse, c'est un début quand même de retour à la vie normale avec la réouverture des commerces, lieux de culture et terrasses. Une bonne nouvelle pour les Français, pour les professionnels. Et puis, il y a la question des terrasses éphémères à Paris que vous avez critiquées. Écoutez ce qu'a dit hier, à votre place, Anne Hidalgo à ce sujet.
Voilà, elle s'oppose. Je pense qu'on peut être dans une opposition un peu plus responsable et réaliste, et puis surtout arrêter de penser que la politique, c'est juste attaquer ses adversaires. La politique, c'est faire des choses pour que les gens vivent mieux.
Vous êtes dans la critique pavlovienne.
Ben écoutez, oui, c'est vrai. Moi, je me suis engagée en politique pour que les gens vivent mieux. Est-ce qu'on vit mieux à Paris ? Explosion de la délinquance, explosion du chaos,
la faute à Madame Hidalgo ?
Non, parce que moi, je ne suis pas comme elle, je ne me déresponsabilise pas. Madame Hidalgo, quand c'est sale, c'est la faute des Parisiens. Quand il y a de la délinquance, c'est la faute de l'État. Et quand il y a un problème de terrasse, c'est la faute des restaurateurs, pour ne pas dire des riverains. Eh bien non, moi je ne suis pas comme Madame Hidalgo. On fait des propositions et on la contraint
d'ailleurs,
d'y répondre.
Sur le hashtag Ça cache Paris, elle m'a dit hier, mais ce sont des comptes anonymes.
C'est l'extrême droite. Non.
C'est ce qu'elle avait dit, puis hier elle a dit ce sont des comptes anonymes.
Non, bah, parce que le compte anonyme, la photo c'est anonyme.
Vous avez fait de vous un hashtag Ça cache Paris pour témoigner?
Vous savez, Ça cache Paris, c'est quoi? C'est effectivement l'écœurement des Parisiens abandonnés. Et Ça cache Paris, ça va au-delà de la saleté. Ça va aussi, ça concerne la sécurité. Regardez ce qui se passe à Stalingrad. Madame Hidalgo se déresponsabilise toujours. On a fait des propositions. Sur les terrasses, Madame Mabrouk, pas de cadre sanitaire, pas de protocole d'occupation du domaine public, pas de, effectivement,
mais pensez
de cadre.
Aux professionnels.
Non, mais pas de cadre sur l'aménagement.
Madame Dati,
sur
il faut les laisser, puis
oui,
tout cela va s'adapter. Pourquoi ne pas faire confiance?
Non, c'est le chaos
carrément.
Sur les trottoirs aujourd'hui. J'étais à 6h du matin dans mon bureau ce matin, j'ai reçu le nombre déjà de plaintes entre les riverains, qui n'ont pas été consultés, les restaurateurs et auxquels on n'a pas donné des instructions claires, c'est déjà la bagarre. Et donc, ça, Madame Hidalgo s'en lave les mains. Donc nous, comme maire d'arrondissement, avec mes collègues maires d'arrondissement, nous sommes sur le terrain pour essayer de trouver un terrain d'entente les riverains et les restaurateurs.
L'affaire dite Big Malion, avec le retour au tribunal aujourd'hui de l'ancien président Nicolas Sarkozy, il reste une figure tutélaire, comme on le dit, pour la droite aujourd'hui, pour vous.
Vous savez, la politique, c'est l'incarnation. Et Nicolas Sarkozy a été président de la République, et c'est pas une mince affaire. Il a été chef d'État. C'est le dernier chef d'État de la droite. Et aujourd'hui, son incarnation existe encore. Il a une vision politique pour son pays, il a une vision politique même à l'international. Et donc aujourd'hui, c'est une personnalité qui compte à droite, je vous le dis.
Merci Rachida Dati d'avoir été notre invitée. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs.
Merci Sonia Mabrouk, il est 8h28.
Europe 1, Mathieu Béliard.
L'info, Émilie Dez et la météo de Laurent Cabrol dans quelques secondes. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Il est 8h30 sur Europe 1, un nouveau point sur l'info avec Émilie Dez.
À la une, l'ouverture aujourd'hui à Paris du procès Big Malion. 14 prévenus comparaissent, parmi eux l'ancien chef de l'État Nicolas Sarkozy. Il est jugé pour les dépenses excessives de sa campagne présidentielle de 2012. Le procès doit durer jusqu'au 22 juin. Un féminicide devant les assises de Lyon. Sur le banc des accusés, un homme déjà connu pour violence conjugale qui avait écrasé sa femme en pleine rue à Vénissieux. C'était en juillet 2019. Le procès doit durer 2 jours, Marion Dubreuil, 2 jours pendant lesquels la justice ne va pas pouvoir éviter un examen de conscience.
Oui, 3 semaines avant d'écraser Bernadette avec sa voiture, l'accusée avait déjà tenté de l'étrangler devant témoins. Elle avait déposé plainte et il devait comparaître pour violence conjugale quelques mois plus tard. En attendant le procès, il était sous contrôle judiciaire avec interdiction de la contacter. Un simple bout de papier, déplore Isabelle Steyer, l'avocate de la famille de Bernadette.
Le contrôle judiciaire, c'est la confiance que fait un magistrat à un agresseur en lui demandant, sur un bout de papier, de ne pas rencontrer la victime. C'est complètement illusoire, le mari de Bernadette. Il sait tout de Bernadette. Il sait où elle travaille, où elle habite, où sont ses amis. Donc il peut aller très librement la harceler, la tuer, sans qu'il n'y ait jamais de contrôle effectif sur la sécurité de Bernadette, alors même qu'elle est en danger de mort.
Bernadette n'avait pas bénéficié d'un téléphone grave danger. Son mari encourt aujourd'hui la prison à perpétuité.
Et Marion Dubreuil pour Europe 1. Il y avait du monde hier dans les magasins, sur les terrasses ou dans les cinémas. Beaucoup ont profité de cette liberté retrouvée jusqu'au bout, jusqu'au couvre-feu repoussé à 21h. Certains ont même eu du mal à rentrer. Les forces de l'ordre ont notamment dû intervenir à Paris, à Marseille ou même à Rennes pour évacuer les derniers fêtards. Rennes, où il a été fait usage de gaz lacrymogène. Les vaccins contre le Covid ont permis à au moins 9 personnes de devenir milliardaires, dont le PDG français de Moderna, Stéphane Bancel. Selon l'ONG Oxfam, leur fortune cumulée permettrait de vacciner les pays les plus pauvres. Joe Biden réclame une désescalade immédiate dans le conflit qui oppose Israël au Hamas. Il s'est entretenu avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Les États-Unis qui menacent par ailleurs d'opposer leur veto à la résolution portée par la France à l'ONU, résolution qui appelle à l'instauration d'un cessez-le-feu. L'Assemblée générale de l'ONU doit se réunir cet après-midi à 16h. Le PSG s'offre une nouvelle Coupe de France, la 14e de son histoire. Les Parisiens, emmenés par un Kylian Mbappé en pleine forme, ont battu Monaco 2-0. Et puis, J-7 avant la diffusion aux États-Unis de l'épisode spécial de la série Friends. La bande-annonce officielle a été dévoilée hier par HBO Max.
18 pages.
Front and back is correct.
Where's the tissue box?
The cost of friends.
Et après 17 ans d'absence, quel bonheur de retrouver les 6 acteurs de la série. Bon, on va pas se mentir, ils ont vieilli quand même.
Attention au coup de vieux. Mais vous savez quoi, après réflexion, je me dis que peut-être
nous aussi,
que nous
on a vieilli. Bah oui.
Finalement, avec eux.
Alors attention, cet épisode spécial de Friends n'est pas un épisode à proprement parler. Les acteurs n'interpréteront pas leurs personnages, mais se retrouveront pour évoquer la série entre rire et émotion.
Avec beaucoup d'invités, on en voit quelques-uns dans cet extrait diffusé par HBO Max la nuit dernière. Merci beaucoup, Émilie Dez. C'était le journal de 8h30. Sur Europe 1. Oui, le générique de Friends, on a toujours plaisir à le réentendre. On aura l'occasion d'en reparler, je pense, dans une semaine au moment de la diffusion de cet épisode spécial 8h34. Laurent Cabrol est avec nous pour la météo.
À consommer avec exagération. Je parle du soleil, bien sûr. Le soleil qui est là ce matin et dans de nombreuses régions, il sera là une bonne partie de la journée, mais malheureusement souvent voilé. Et les régions les moins gâtées sont celles qui bordent la Manche, où nous aurons un ciel couvert, un ciel humide, un temps humide, avec parfois quelques gouttes sur le Cotentin et la Bretagne, et des vents de 60-70 km/h. C'est d'ailleurs dans ce secteur que demain ce sera le plus agité. Donc les côtes de la Manche, dommage pour vous, chers amis, mais ça sera pas génial. Et puis, dans les autres régions, ma foi, soit un petit voile, soit un grand voile, soit pas de voile du tout, selon les coins, mais de toute manière, nous sommes au mois de mai et le soleil de mai est un soleil qui est généreux. Et puis, dans le sud, et ce sera franchement ensoleillé, notamment Aquitaine, Midi-Pyrénées, Pays Basque, le bassin méditerranéen, la basse vallée du Rhône, ce sera du beau temps avec des températures de 21 à 25 degrés. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure que, effectivement, pour ce congé de Pentecôte, ce sera un jour oui, un jour non. C'est pas tout mauvais, c'est pas tout beau, loin s'en faut. Mais pour nous tous, malheureusement, les températures sont très fraîches.
Merci Laurent Cabrol. Il est 8h35 sur Europe 1. Dans un instant, notre santé avec le docteur Jimmy Mohamed.
Et on prend soin de votre sommeil avec une astuce toute simple pour mieux dormir, une couverture lestée de plusieurs kilos pour ceux qui souffrent d'insomnie.
On va découvrir ça dans quelques secondes. Restez bien sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h37. 8h37 sur Europe 1, c'est Jimmy Mohamed qui est avec nous pour notre santé, le médecin d'Europe 1. Bonjour docteur.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors avec vous, nous allons parler ce matin du sommeil. Comment lutter contre l'insomnie avec des astuces toutes simples?
Eh oui, vous ne le savez peut-être pas, mais vous avez dans votre cerveau une horloge qui contrôle votre température corporelle. Et cette température, elle varie légèrement en fonction de la journée et de la nuit. Lorsqu'elle monte, elle fait comprendre à votre organisme que vous devez être réveillé et donc que c'est le moment d'être actif. Et à l'inverse, lorsqu'elle est basse, c'est donc le moment de dormir. Par conséquent, un bon endormissement passe donc par une pièce pas trop surchauffée, 19-20 degrés au maximum dans la chambre, et on évite si possible de faire une activité physique intense juste avant le coucher, et je parle de sport. Enfin, n'oubliez pas qu'il faut dormir dans l'obscurité et si possible dans le silence, à l'abri du bruit ou des ronflements du conjoint.
On a bien compris que vous parliez de sport, Jimmy Mohamed. Alors si malgré cela on a du mal à trouver le sommeil, il existerait une couverture, alors là je découvre complètement, une couverture qui permettrait de mieux dormir.
Et oui, une couverture particulière puisqu'elle va être lestée, c'est-à-dire alourdie et peser environ 10% de votre poids. Elle va donc appliquer
de notre
une pression.
Poids
ouais, ouais, 10% ah ouais. De votre poids, faites 80 kg, c'est 8 kg.
Ah ouais,
elle va appliquer,
ça.
C'est pas mal. Elle va appliquer une pression en fait sur l'ensemble de votre corps et donc stimuler la sensation de toucher et d'étendre les muscles un peu à la manière d'un massage. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que cette stimulation et cette pression, elles vont favoriser la libération d'une hormone qu'on appelle l'ocytocine. Et elle joue un rôle important dans la relaxation, mais aussi dans le sommeil. Il y aura en plus une explication un peu psychologique. Dormir enveloppé rappelle en quelque sorte le contact humain, le fait d'être protégé, un peu comme dans le ventre de notre maman.
Mais ce qui revient à l'activité d'avant-sommeil dont vous parliez. Alors on peut comprendre l'aspect enveloppant, hein, cocooning de cette couverture, mais est-ce que c'est prouvé scientifiquement, sérieusement ?
Évidemment, on n'est pas dans le télé-shopping, on est sur Europe 1, donc oui, c'est justifié. Alors justement, des chercheurs en neurosciences ont proposé à des patients souffrant d'insomnie ainsi que d'un trouble psychologique, comme des troubles anxieux ou une dépression, deux types de couvertures. L'une lestée, d'un poids de 6 à 8 kilos, et l'autre similaire mais plus légère. Et les résultats montrent que les utilisateurs de la couverture lestée ont vu leur insomnie diminuer, ainsi qu'une baisse de leurs symptômes anxieux ou dépressifs au bout de 4 semaines seulement. L'avantage de cette couverture, c'est qu'elle n'entraîne aucun effet secondaire, contrairement aux somnifères ou aux anxiolytiques que je vous déconseille. Enfin, s'il y a une seule chose à retenir, c'est qu'il faut essayer de comprendre pourquoi vous avez du mal à trouver le sommeil, plutôt que de chercher à dormir coûte que coûte au moyen de médicaments. N'hésitez pas à consulter un médecin du sommeil ou à aller faire un tour sur un site internet très bien fait du réseau Morphée. Vous y trouverez plein d'informations pour un sommeil de qualité.
Réseau Morphée, merci beaucoup le docteur Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1 qu'on retrouve tous les jours de 15h à 16h dans Sans Rendez-vous, l'émission Santé avec Mélanie Gomez. 8h40, nous retrouvons à présent Fanny Agostini, notre planète. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Et Fanny, je crois que vous me voyez venir.
Encore.
Les abeilles.
En cette journée mondiale de l'abeille, oui, enfin, écrivez des chansons sur les abeilles. Parce que pour l'instant, j'ai pas
je vais m'y mettre.
Bourville. J'ai
je vais
pas
m'y
mis
mettre.
Bourville pour l'instant. Alors, journée mondiale de l'abeille, c'est pas rien, Fanny. Vous nous parlez d'une entreprise qui utilise les pollinisateurs pour faire de la biosurveillance.
Alors, imaginez effectivement une abeille qui, en plus de polliniser en butinant, accomplit un acte de contrôle sur chaque fleur qu'elle rencontre. C'est ça, la biosurveillance. Utiliser des insectes pour faire un travail d'une minutie indéfinissable, pour faire un état des lieux de la santé de l'environnement. Alors, parmi les nombreuses méthodes qui sont utilisées dans cette biosurveillance, l'une d'elles mérite aujourd'hui toute notre attention. L'entreprise Bigard est en train de déployer des capteurs sur énormément de ruches au sein de 12 pays.
Rien à voir avec l'humoriste, Bigard.
Rien à voir du tout.
Pardon,
voilà, voilà. Ça veut dire abeille et gardien, en fait. Voilà, je prononce très bien, mais voilà, c'est de l'anglais. Ces capteurs, qui sont installés donc dans les ruches, ne nécessitent aucune modification de ces fameuses ruches et ils réalisent la prouesse de mesurer la quantité et la qualité du pollen que les abeilles déposent dans la ruche, dans chaque alvéole des rayons. Les données ainsi captées sont ensuite agrégées par une intelligence artificielle qui va ensuite cartographier tous les lieux qu'auront parcouru ces abeilles, chaque endroit butiné, ce qui renseignera aussi sur la présence des produits chimiques qu'elles auront rencontrés sur leur parcours.
Mais comment est-ce que mesurer ce qui se passe dans la ruche nous permet de mesurer ce qui se passe à l'extérieur ?
Bah alors c'est très facile, hein. faut se dire que ces petits insectes présents sur Terre depuis 80 millions d'années sont des capteurs naturels de ce qu'il se passe dans un rayon de 3 km autour de leur ruche. Alors plutôt que de faire le travail fastidieux de mesurer les types et quantités de pollen nous-mêmes, eh bien on peut mesurer la variation des pollens que butinent les abeilles grâce à ce qu'elles déposent dans les ruches. C'est ainsi l'occasion de mesurer la population des abeilles et ce qui les affecte, ces abeilles, donc leur alimentation, les aménagements ou l'usage des produits phytosanitaires.
Bien sûr. Est-ce que cette biosurveillance par les abeilles est un cas isolé ?
Alors, c'est une pratique qui gagne en amplitude. Mathieu Bigard innove avec des capteurs quasi autonomes, mais des acteurs français comme Apilab ou Biodiversity proposent eux aussi la biosurveillance par les abeilles. De manière générale, il faut se dire que les abeilles mesurent en fait, les impacts des choix politiques et économiques sur l'environnement. La science a donc de plus en plus recours à des méthodes passives de biosurveillance en observant des espèces de faune et de flore qui agissent comme des sentinelles. Et on peut se dire ce matin que mesurer les variations écologiques s'avère aujourd'hui indispensable pour prendre des décisions éclairées.
Bon, Fanny Agostini, entre-temps, j'ai mieux que Bourville, si ça vous va.
Ah, dites-moi. Je préférais Bourville, en fait.
Finalement, mais c'est pas mal aussi. Un petit peu de nostalgie ce matin aussi. Merci beaucoup, Fanny Agostini. Bigard, le nom de cette entreprise. Blague à part, Bigard, c'est noté. Fanny Agostini, cette journée mondiale de l'abeille. 8h43, dans un instant, Nicolas Canteloup avec Julie.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h46, ils sont là. Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Allez Mathieu Béliard, c'est à vous pour les titres de l'actu.
Oui, ma chère Julie, bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1. L'info du jour, c'est bien sûr la réouverture des terrasses. D'ailleurs, on en parlait avec Jimmy Mohamed, l'importance de bien dormir, le réseau Morphée pour bien dormir. Je peux vous dire qu'après ce qu'on s'est mis avec certains des potes, c'était plutôt le réseau Morphée, nous. Mais bon, bref, les terrasses, vous l'avez compris, prises d'assaut par les Français. Il était temps, content de revenir en terrasse. Et c'est vrai que...
Non, mais arrêtez, mais ça suffit avec vos terrasses, enfin. Mais c'est quoi cet amour des terrasses, là ? Vous êtes tous devenus des Xavier Dupont de Ligonnès ou quoi ?
Oh là là. Hein ?
Les médias, depuis hier, ils n'ont que pour les terrasses partout. Et les musées, alors ? Hein ? Et mon patrimoine, ils sont le pâté, mon patrimoine ? Parce que j'ai les chiffres. Hier, personne n'est allé visiter, ma chère Julie, le musée de la Meule de Foin à Saint-Génis-du-Fumier.
Personne.
L'exposition pneus d'hier et d'aujourd'hui sur le parking des usines Michelin de Clermont-Ferrand. Il n'y avait personne. Alors qu'on a quand même réussi à réunir plus de 2500 pneus de 1865 à nos jours,
les premières
automobiles.
Ça doit être magnifique.
Mais oui. Ah, ça, pour se mettre des murs, il y a du monde. Mais pour se cultiver avec des pneus et des meules de foin, il n'y a plus personne.
Oui, c'est vrai de remettre les vraies valeurs. Merci Stéphane. On promet. Allez, on fera un effort. Et puis, l'autre info, c'est cette manifestation de policiers hier qui a rassemblé, vous savez, 35 000 personnes selon les organisateurs et 35 000 personnes selon la police. Oui. Pour une fois, ils sont d'accord. C'est pas si souvent. 35 000 personnes, mais vous l'aurez noté, pas Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon qui a qualifié cette manifestation de factieux. Bon, ben, on lui souhaite de ne pas se faire stopper pour excès de vitesse dans les jours à venir. Parce que, si les flics le chopent, même à 2 km/h de trop, ils vont se régaler. Hein, Jean-Luc Mélenchon, il va finir 3 jours dans une cellule en garde à vue, en slip-cravate, entouré de 25 trafiquants. C'est ça. Vu l'état dans lequel il a mis les policiers, même s'ils oublient, il a oublié de mettre des pièces dans le parc-mètre, ils vont le mettre sa voiture à la broyeuse, c'est évident. Allez, bon courage à M. Mélenchon. On a une pensée pour lui. À vous, Julie.
Merci, Mathieu.
Je crois qu'il
n'a
pas le permis, Jean-Luc Mélenchon.
Il n'a pas
le permis, ouais.
Donc, c'est le chauffeur qui trinque, alors.
Oui, ce sera pour lui.
Content, il a pété ma vanne. Allez, c'est bon.
Immunité, non, c'était pour vous répondre, Nicolas.
Mais c'est moi qui parlais, c'est moi, Mathieu.
On a cette espèce de talent.
Bon, allez, on va revenir justement. On revient justement sur la manifestation des policiers qui a eu lieu hier, donc une manifestation où presque tous les camps politiques étaient présents.
Ouais, salut Julie, salut Mathieu, salut à tous, bienvenue dans Secret Bulletin d'Inside. Effectivement, toutes les stars de la politique étaient à cette manifestation hier. Il y avait un petit parfum Festival de Cannes. C'était the place to be. On a vu Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez, superbe cravate bleue, Laurent Wauquiez, Jordan Bardella en costume cintré, aussi cintré que sa patronne, Éric Zemmour
Jean Lassalle, Jean-Marie Bigard, Jean Messia et Philippe de Villiers étaient également présents. Oui, on aurait dû le début d'une blague, mais non, on dirait le futur de gouvernement de Marine Le Pen. C'est bien, c'est rassurant.
Et à gauche alors, il y avait qui à gauche?
Alors à gauche, oui, à gauche, il y avait du monde à gauche. Il y avait bien sûr le communiste Fabien Roussel. Oui, c'est écrit en petit sur ma fiche, c'est pour ça. Olivier Faure était également là, du Parti Socialiste. Bon, là, j'étais, je suis pas le seul à pas le reconnaître. On a eu également Gérard Lanvin qui a fait un discours, dans la lignée de son dernier album. Et puis la superstar de cette manif, Gérald Darmanin, qui manifestait contre son propre gouvernement.
Allez, ne soyons pas de mauvaise foi, Nico. S'il manifestait pour aider les policiers, pour les soutenir, pour dénoncer les suppressions de postes, par exemple, c'est pas incohérent qu'il soit là.
C'est vrai. Gérald Darmanin, le principal disciple de Nicolas Sarkozy, manifestait contre les suppressions de postes. Mmh. Ah oui, mais comme c'est Nicolas Sarkozy qui avait supprimé les postes à l'époque, non, décidément, pas tout à fait cohérent, la démarche de Gérald Darmanin. On en parlera plus tard.
Merci, Nikos. La manifestation d'hier portera-t-elle ses fruits? D'après les spécialistes, qu'on entend...
Qu'est-ce qu'il y a? Les policiers qui manifestent. Oh, les vedettes!
Monsieur Régis, notre ami syndicaliste cheminot, bonjour! Mais pourquoi vous dites ça, au fait?
Oui, bonjour à tout le wagon. On va pas se mentir, c'était mou du genou, leur manif. On s'est fait un peu yèche en la regardant, comme disent les jeunes. Il y avait du people, mais c'est tout. On aurait dit une série Netflix. Il y a un gros casting, ok, mais on s'emmerde à 100 sous de l'heure. Bon, je les comprends un peu, les policiers. C'est comme faire une fête chez soi, hein. Tu fous moins le bon son quand tu sais que tu devras nettoyer derrière. Mais enfin, quand même. Ils avaient l'air tout perdus, les policiers. Il n'y a rien eu de cassé, rien eu de cramé. Comment tu veux marquer les esprits? Pas possible.
En tout cas, tous les courants politiques étaient là.
Super. La manif où les hommes politiques sont dedans. C'est de dire si ça leur faisait peur. Ah oui. Moi, je vais leur proposer du consulting manif. Voilà. Oula. Je leur vends du consulting manif. Alors d'abord, j'explique.
Oui.
D'abord, on crame des palettes. Oui. Voilà. Ça, c'est la base. Après, on fait des feux de pneus.
Oui, c'est bon.
Et
aussi,
après,
ça,
éventuellement, on fait brûler une trottinette par un stagiaire en disant que c'est pas nous. Voilà. Et après, tu bloques tous les trains de banlieue. Et là, le gouvernement, il t'écoute. Oh, ils ont tout à prendre, les gars. Oh, c'est des vedettes.
Merci, monsieur Régis. Allez, il était en terrasse hier matin, lui aussi. Le président est avec nous maintenant pour commenter la première journée de réouverture.
Oui, bonjour à toutes et à tous.
Bonjour.
Patron, s'il vous plaît, patron, un vitel citron. Si. Oh non, après tout, non, c'est une fête. Allez, c'est la fête. Oui, pardon, oui. Grenadine. Allez, avec une paille. Avec une paille.
Grenadine avec une paille, la fête. Alors, cette réouverture, c'était l'événement d'hier. Hein. Vous étiez avec Jean Castex.
Tout à fait. D'ailleurs, franchement, je ne sais pas trop pourquoi les Français en ont fait toute une histoire de cette ouverture de terrasse.
Bah, quand même.
Écoutez, j'y ai passé une heure avec Jean Castex, mais j'ai connu de meilleurs moments dans l'existence.
Enfin, tous les Français n'étaient pas avec Jean Castex. Hein. Ils attendaient avec impatience de ressortir avec des amis.
Oui, c'est vrai, les Français attendaient cette réouverture. D'ailleurs, j'ai les chiffres. Qu'est-ce que vous avez lâché comme fric en terrasse, hein, au prix où c'est, en plus? À ça, d'habitude, vous êtes là, ouais, c'est la crise, on n'a plus d'argent, nanana. Mais dès qu'il s'agit de vous pochetronner la tronche, vous en trouvez du pognon. Hein.
Alors, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a déclaré en interview que vous aviez eu raison, hein, pour votre calendrier, malgré ce qu'on disait l'opposition et les scientifiques aussi.
Et ça vous étonne? Mais bien sûr que j'ai raison. Écoutez, j'ai travaillé mon épidémiologie tous les jours. Les scientifiques sont mignons, mais quand on n'a pas le niveau, on n'a pas le niveau. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En tout cas, il faut que nous tirions collectivement, je le dis, les leçons de cette pandémie. Voilà, la leçon, c'est que je suis meilleur que vous, tous.
Carrément, en
intégralité. Voilà, le mieux, c'est que tout le monde admette cet état de fait. Et ensuite, on pourra enfin faire avancer le pays.
Eh bien, courage. Merci, monsieur le président. Un sondage révèle que 64% des Français considèrent que le parti Les Républicains ne sert à rien. Ils trouvent qu'il a des positions trop proches, soit du Rassemblement National, soit de La République En Marche.
Mais c'est n'importe quoi. Mais c'est biaisé comme sondage.
Nadine Morano, bonjour.
Salut. J'y crois pas une seconde. Hein, elle y croit, là, Leclerc, elle. Mais c'est tout bidon, franchement. On est utile dans la politique française. Franchement, quelle espèce de taré peut imaginer une France sans Éric Ciotti, sans Christian Jacob, sans Bruno Retailleau? T'imagines, toi, la vie politique sans la Nadine?
Ah, oh bah non. Ah ouais, non.
Bon, écoute, je veux pas me jeter des fleurs, mais ce serait fadasse, excuse-moi. La droite, c'est quoi? C'est Jean-François Copé, Laurent Wauquiez, Brice Hortefeux. Des gens qui ont sublimé l'esprit de Charles de Gaulle, voilà, du grand Charles.
Et on comprend que ça vous fasse de la peine, hein. C'est un parti historique.
Mais bien sûr, quand même, 40 ans de vie politique française et qui ont été utiles à la France. Regarde les deux mandats de Chirac, c'est quand même le président qui a fait... Là, ça ne me vient pas tout de suite, mais pas que. Chirac, c'est sûr... Bon, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a besoin de cette famille politique, voilà.
Voilà. Merci Nadine Morano. Didier Deschamps a réuni 7 millions de téléspectateurs avant-hier pour l'annonce de sa liste des joueurs pour l'Euro. Il était interrogé par Nathalie Yaneta et Marie Portolano, la journaliste qui avait réalisé le documentaire qui a abouti à la mise au banc de Pierre Ménès, n'empêche.
Tu vois, je vais rendre service.
Oh là là,
bah, j'ai rendu service,
oui, Pierre Ménès, vous lui avez rendu service, allons.
À Portolano, grave, parce que je lui ai mis une main au cul et c'est devenu une star, voilà. Il faut se rendre à l'évidence. Elle fait le docu, du coup elle fait le buzz derrière. La société veut se donner bonne conscience, voilà, et décide que maintenant faut mettre en avant les bonnes femmes, voilà. Et on l'envoie interroger Deschamps. Hein. J'espère qu'elle m'enverra des chocolats. La mère Portolano, parce que abaisse la carrière, sans moi, ce serait les photocopies, le café dans un bureau à Canal. À se prendre des mains au cul par des stagiaires seulement.
C'est
le grand Pierrot qui lui a mis la main au cul. Voilà,
Pierre Ménès.
La carrière a décollé direct.
Allez, stop. Ouais,
non, mais tu crois qu'on lui redonnait sa chance, sinon, la Portolano? Mais non, t'en as vu beaucoup, t'as des gonzesses en commentaire ou autour des tables de consultants. Non, tu rêves. Comme quoi, tu vois, on dit que je suis un bof, macho et tout le pataquès. N'empêche que si on met les femmes en valeur aujourd'hui, c'est grâce à des gens comme moi. Et j'espère que de là-haut, Simone de Beauvoir, elle a les tétons qui pointent, parce que c'est Pierrot qui fait bouger la société.
Ça suffit, Pierre Ménès, allez, c'est bon. Oui. Allez.
On risquerait de progresser. Merci beaucoup Julie et Nicolas Canteloup. La revue de presse à retrouver sur europe1.fr à 8h57. Accueillons Philippe Vandel. Culture Média va démarrer. Bonjour Philippe.
Bonjour Mathieu. Aujourd'hui, on reçoit un invité très très rare dans les médias, le directeur général de Google France, Sébastien Missoff, qui va nous parler des activités du géant du web, c'est le G de GAFA. Et aussi, on va parler du risque d'une amende énormissime, plus de centaines de millions, peut-être même un zéro de plus. Et puis, générique. Vous avez reconnu?
Bien sûr, la Star Academy. J'ai eu peur de dire une bêtise.
Non, c'était la Star Academy, programme culte de TF1 qui fait l'objet d'un documentaire samedi avec énormément d'anecdotes. Par exemple, Madonna et plein d'autres choses. Nous serons avec Nathalie André qui a été directrice de la Starac et Karima Charny, animatrice radio-télé, mais qui a été candidate de la saison 4 avec Grégory Lemarchal. Et enfin, la comédienne Charlotte de Turckheim qui sort le dictionnaire de ma vie où elle raconte sa vie et ça décape des choses qu'elle n'avait jamais racontées jusqu'à présent.
Culture Média de 9h à 11h sur Europe 1. Avec Philippe Vandel et toute son équipe. Je vous souhaite une très belle journée. Je reviens demain matin en direct dès 7h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.